Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit.
J'essaie d'apporter des idées. Voilà. C'est ça qui m'importe et c'est pour ça que je suis là à l'After Foot qui est la messe du football.
L'After Foot.
Gilbert Bribois.
Ça y est. Nous écoutions notre révérend, le révérend Thierry, qui était parmi nous. Oui, c'est lui, Lionel.
T'as pas sauté de joie quand t'as entendu son nom.
Messieurs, là, ils sont là par ordre de puissance, s'il vous plaît, en Ligue des Champions. J'accueille en premier Johan Crochet, trois clubs. Il est au-dessus de la mêlée ce soir. Johan, bonsoir.
Et ça fait bien longtemps. Bonsoir à toutes et à tous.
Naples, il est le capitaine.
Naples,
Milan et football européen.
Le deuxième par ordre de puissance, c'est Julien Laurence. Un peu rétrogradé tout de même là, avec deux clubs seulement, Chelsea et City. Salut Julien.
Salut Gilbert. Salut à tous.
Et puis ensuite, on a les sans grades, les réclamés, les quasiment les sans dents, je dirais. Non, les sans dents, c'est nous, on a zéro club. Eux, ils ont encore des dents. C'est Paulo Breitner et Fred Hermel, un club chacun.
Il a son Bayern, quand même.
Bonsoir.
Oui, mais c'est un club. Il aurait pu en avoir quatre. Non, comment ? Oui, qui c'est qui s'est fait éliminer ? Leipzig, Francfort.
Vient de sortir, Leipzig, Dortmund est sorti. En huitième, il avait fait carton plein, quand même.
Non, on aurait pu faire 5 sur 5 avec Leverkusen.
Ah voilà.
Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait plus. Mais...
Et Fred Hermel qui a failli à un but près passer à la fin de sa carrière et la retraite à.
Eh oui. À 64 ans.
À 50 ans, puisqu'il a 50 ans.
53. Hola, Chicos.
Benzema t'a sauvé une fois de plus.
Eh ben, mais comme depuis 13 ans qu'il est au Real, quoi. Donc. mais d'accord, vous avez plus de clubs et tout, mais moi j'ai le meilleur, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qui vaut mieux, la quantité ou la qualité?
Bah, t'as un peu de qualité dans ton championnat quand même, même si c'est en baisse.
Ah, c'est plus que ça a été, mais enfin.
Bon, allez, faites, je veux un petit tour là. Ça a fait du bruit, c'est scandale, c'est Ferrin ou pas?
Ah, bah, bien sûr qu'on en parle en Espagne, bien sûr.
En Angleterre, en Allemagne?
Pas plus que ça.
Ouais, nous aussi, forcément. Et puis ça vient de chez nous en plus.
Et votre avis là-dessus?
Ah ben c'est la fin du fin, c'est-à-dire que moi c'est du délire, c'est-à-dire que les quatre figures, il suffit d'imaginer, parce qu'à partir du moment où quelqu'un peut choisir dans une rencontre le club qui doit gagner ou pas, parce que pour des intérêts, imagine le même propriétaire a deux clubs en demi-finale de Ligue des Champions, il a besoin que l'un des deux soit en finale pour des raisons commerciales. Bon ben, enfin c'est tout simplement insensé quoi, c'est la
mais
fin
c'est
du football.
C'est pas possible, d'ailleurs, Julien, peut pas le faire. Il peut pas le faire. Bah, je pense que son ami Nasser,
lui a demandé.
Mais non, son ami Nasser lui a demandé de lancer ça comme ça, voir les réactions un petit peu. C'est un tollé, c'est pas possible.
Je pense que juridiquement, il peut y avoir des recours sur un truc pareil. Je sais pas devant quelle juridiction, mais enfin.
Julien, je veux bien me mettre dans ton camp en disant c'est juste pour tâter le terrain. Mais ne serait-ce que on parle du président de l'UEFA, que le président de l'UEFA, même si c'est pour tâter le terrain comme tu dis, mais fasse une sortie pour dire que il peut l'envisager sans considérer que c'est gravissime pour le football, alors qu'il est censé être le gardien du football et l'organisateur de la vieille compétition, et que ça fait 2 ans qu'on dit que c'est le gardien du temple, la face aux ennemis de l'extérieur, que le tampon UEFA sur la Ligue des Champions, c'est la tradition absolue, que tout le monde veut garder ça. Les supporters étaient dans la rue en avril 2021 quand est arrivé le projet des mécréants. Que ce gars-là aujourd'hui dise ça, même si c'est pour tâter le terrain, mais on... Enfin, c'est absolument terrible. Ce gars-là n'a plus aucune crédibilité. Moi, je veux entendre Oliver Kahn, Rummenigge, ceux qui, justement, se sont toujours prévalus de la grande tradition du football. Je veux savoir ce qu'ils pensent de ça. Je veux savoir ce que Polo pense de ça.
Oui. On remarque qu'ils avaient déjà dit ça sur Red Bull, peut-être, là-bas, en Allemagne.
Oui, déjà sur Red Bull, il y avait déjà eu beaucoup de polémiques. La deuxième chose, c'est que je vais reprendre les propos de Michel Platini. On est en 2023. Et il parle du sens de l'histoire. Moi, j'ai pas attendu 2023 pour me rendre compte des écarts qui se passent dans le football professionnel. Donc là, ce qui se passe en fait serait d'une logique absolue à partir du moment où on est dans un monde libéral. Donc il n'y a pas, pour moi, de
non, parce que dans un monde libéral, il y a aussi des règles. Non,
oui, même oui, dans un monde libéral, mon cher Fred, il est surtout libéral et pas démocratique. C'est surtout ça la réalité.
Alors, dans un monde libéral et démocratique, et donc, il y a des règles pour
ça n'existe pas, la démocratie, dans un monde libéral, quand tu réfléchis vraiment à ce qui se passe depuis le début.
Non, mais Polo, si on te propose du contrôle, est-ce que tu le prends ou est-ce que si on te propose du contrôle
attends,
et de la régulation,
Daniel,
est-ce que tu le prends ou pas?
Je t'ai écouté sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Déjà, ta première version de la Super League, t'étais d'accord pour une ligue fermée. Aujourd'hui, elle doit être ouverte.
Ah non, j'ai jamais été pour la ligue fermée.
Non, mais Daniel, je te rappelle notre débat sur semi-ouvert, semi-fermé. Et je t'avais dit semi-fermé, ça veut dire fermé. Et tu, bah j'avais voulu te relancer là-dessus trois mois.
Jamais. Tu te trompes. Bon,
ensuite, tu
jamais
me parles
jamais fermé.
De
fermé, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Donc oui, c'était semi-fermé. Non, c'est pas. C'est toi qui m'en as, Daniel. Parce que semi-fermé, je t'avais sorti. Semi-fermé, oui, oui, on peut retrouver les bandes, tout ce que tu veux. Semi-fermé, je me rappelle très bien ce que j'avais dit à l'époque. Semi-fermé, ça veut dire fermé. Hein, et toi, t'as bien. Non, si, si, ça veut dire ça, en fait. Et aujourd'hui,
en fait,
Paulo, tu me parles.
La question est. Soit tu décides que tu chies sur tout le monde, soit tu réponds à une question qu'on te pose, si tu veux bien y répondre, et sinon tu dis, je ne réponds pas. Est-ce qu'une compétition contrôlée, régulée, et qui ne permet pas une multipropriété, tu es pour ou est-ce que tu es dans le camp de Seferin? C'est simple à un moment.
Mais non, c'est pas ça, c'est pas contrôler, je chie sur tout le monde et ça, c'est pas aussi. Ça le truc. D'ailleurs, on m'a fait comprendre, fallait plus dire de gros mots, donc.
Faut plus dire de gros mots, en effet.
Voilà, donc, exactement. La question,
enfin, c'est. Voulu pas... quiconque dise des gros mots, d'ailleurs, je le précise, oui. Les enfants.
La chose, elle est, c'est encore une fois, c'est pas de se rendre compte en 2023 comment évolue le football depuis 30 ans. Hein, moi, je t'ai jamais senti vent debout contre toutes les évolutions du football. Aujourd'hui, tu me sors la régulation. Alors, c'était avant, quand on parlait de régulation dans le football, c'était la fin des haricots, les retours des communistes et tout ça, et maintenant, tu veux une régulation dans le football.
Alors,
c'est
pense
fabuleux.
Je pense avoir milité très longtemps pour le fair play financier, déjà. Pour le 6+5, encore. Donc, Paulo, écoute, tu sais quoi, on va arrêter la discussion parce que de toute façon, okay. Tu racontes n'importe quoi.
Mais bien sûr, tu as raison, mais tu fais dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas dire uniquement pour vendre tes idées.
Donc, on va arrêter.
Mais bien sûr, voilà, dis-le, vas-y, vas-y, sors là.
On va arrêter. On va arrêter.
Ça t'évitera de dire des bêtises, ça t'évitera de mentir une fois tous les 6 mois.
Ce qui t'intéresse, c'est d'être seul contre tous.
Et puis, continue. J'observe une évolution, et sauf que je sais pas en 2023.
Daniel, s'il te plaît. Passons. Allez, Johan, ton avis. J'ai coupé vos micros. Johan, ton avis, toi, là-dessus, tu t'es pas exprimé.
Oui, bon, moi, je trouve que c'est absurde, mais c'est difficile de dire le contraire. En fait, c'est un peu, c'est de l'eau tiède, en fait, ce qu'on dit. Je veux dire, c'est impossible que. Enfin, moi, je suis un peu comme Julien. Je vois pas comment ça peut passer. Je vois pas comment ça peut être accepté, etc. Quant à l'idée de régulation, etc. Moi, j'attends de voir qui va réguler, hein, parce que moi, ça me fait marrer la Super League quand on voit que deux des grands inventeur de cette Super League, c'est la Juve et le Barça, et quand on voit dans l'état dans lequel ils sont et qui les a menés à cet endroit-là et qui pousse pour cette Super League, moi ça me fait un peu doucement marrer la Super League, et notamment une fois que ça sera privé et bien contrôlé par ces clubs-là, je peux vous dire qu'on ne sera pas sur le modèle qu'ils auront présenté quelques mois auparavant. Mais bon, ça c'est
ok, Johan. Donc Seferin a raison.
Non, mais alors ça, tu vois, c'est un raccourci, Daniel. Moi,
à un moment, il faut se prononcer, en fait.
Oui, bah si tu me laisses parler, je vais le dire. Mais en aucun cas, tu peux parler pour moi. En l'occurrence, moi, je trouve que Seferin et l'UEFA font n'importe quoi, notamment sur la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Mais ça veut pas dire que je suis prêt à accepter n'importe quoi en échange de l'abandon de l'UEFA et de Seferin. En l'occurrence, la Super League avec des mecs qui sont incapables. Je me rappelle encore l'interview que vous aviez faite sur RMC. Le mec c'était scandaleux. Il est incapable d'expliquer ce qu'est la formule de la Super League.
Bah, laisse-lui
incapable,
le temps.
Tu lui souffles
le temps de la proposer, déjà.
Incapable.
Bah, laisse-lui le temps de la proposer, Johan.
Comment sont les choses?
Laisse-lui le temps de la proposer, Johan.
Et Daniel, c'était quand la première version? Il lui en faut 10 ans pour la proposer? Ça réfléchit.
Mais même s'il lui faut 40 ans, laisse le temps aux gens de préparer leur projet.
40 ans, c'est peut-être un peu long.
Laisse le temps aux gens de préparer. Le problème, c'est que la réforme 2024, on la connaît. Tu ne l'aimes pas. La multipropriété, c'est quelque chose de nouveau qui arrive sur le tapis maintenant. Tu ne l'aimes pas. Le fair play financier, il l'a fait sauter pour faire plaisir aux Qataris et aux gens de City. Tu n'es pas d'accord, mais malgré tout, tu t'accroches quand même. C'est ça que je ne comprends pas, en fait.
Le fair play financier, il existe peut-être pas pour tout le monde, mais pour les clubs italiens, il existe bien, le fair play financier.
Ah, mets-toi bien en face de ton micro,
Yvan.
Je disais, le fair play financier, il existe bien pour les clubs italiens. Ils sont quasiment tous au settlement agreement avec l'UEFA, avec masse salariale contrôlée, interdiction d'augmenter la masse salariale d'une année sur l'autre en Ligue des Champions, contrôle des déficits, etc. Donc, il existe bien, t'inquiète pas, en Italie.
Qu'est-ce qu'on dit en Italie aujourd'hui juste sur le fait que Seferin puisse sortir de tels propos?
On n'en a quasiment pas parlé parce qu'aujourd'hui, il y avait une actualité qui était, j'allais dire, brûlante.
C'est trop chaud.
Avec Naples et tout ce qui s'est passé à Naples. Donc franchement, c'est totalement passé à l'as. On en parlera sans doute. J'attends de voir.
Le fait de le sortir, même si c'est son copain Nasser qui lui a demandé, je comprends pas.
Non, mais personne. Mais honnêtement, moi, je pense que les Italiens, ils sont pas plus bêtes que les autres. Je vois pas comment ils peuvent accepter un truc pareil. Ils connaissent les enjeux, ils voient comme tout le monde, mais comme nous tous. Quoi. Je veux dire, ce qu'on dit, c'est bateau, quoi. On va tous être d'accord sur la position. Je veux dire, qui peut accepter un truc pareil?
Bah oui.
Fred, ton avis à toi?
Mais je l'ai déjà donné.
Ah bon, d'accord.
Oui. Moi, je suis totalement. Après que ce soit la Super
League. C'est pas très clair, parce que j'avoue que j'ai pas.
Non, mais. Percuté. Moi, oui. moi je pense, après, Johan et Julien disent que c'est pas possible. Moi, je me méfie toujours des choses qui paraissent impossibles et qui un jour arrivent.
Non, mais t'as raison, Fred, là-dessus. T'as raison.
Tu vois, moi, tu sais, il y a tellement de trucs dans le football, on n'aurait pas imaginé plein de choses, et puis un jour ça arrive, on sait nous le vendre, etc. Donc, moi, je pense.
Ça a été possible pour les Allemands.
Je pense
avec Red Bull.
Bah oui, à l'époque on pouvait pas imaginer qu'un club possède d'autres clubs, mais bon. Non mais moi je pense qu'en plus l'erreur de Seferin, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a la décision de l'Union européenne sur la toute puissance de l'UEFA et le fait qu'elle est
elle va contre la situation de monopole,
c'est le mot que je cherchais. Donc je suis pas sûr que ce genre de déclaration soit très en faveur de l'UEFA. Moi, après, que ce soit Super League ou que ce soit pas Super League, que ce soit autre chose, je pense que le système actuel ne va pas bien. C'est tout. Enfin, il faut.
Et t'as raison. Fred. Mais ça veut pas dire qu'on est obligé de remplacer par un système qui est encore plus mauvais.
Le
quoi.
Plafond, le pas plafond meilleur. Salarial, ben c'est la première mesure à prendre.
Avant de se prononcer, Johan, on peut juste attendre la proposition.
Voilà. Mais en tout cas, tout ce qui a été annoncé est ridicule. Et quand on réfléchit un peu, privatiser encore plus le football, je vois pas l'intérêt. Mais bon, excuse-moi, Fred.
Le football, il est privatisé. Il est déjà privatisé, le football. Le football est déjà privatisé. Je suis désolé, l'UEFA, c'est un organisme.
Il est public, le football. Là, j'ai raté un truc.
Non.
Il est au moins. Après, c'est avec une société déjà qui contrôlera, ce ne
sera pas un organe comme l'UEFA.
Johan, c'est verrouillé. L'UEFA, comment tu peux croire encore à cette institution? Tu vois pas ce qui est devenu la FIFA et tu penses que Seferin, il va être différent?
Julien, est-ce que tu veux rajouter un truc pour finir?
J'ai pas fini ma phrase, moi.
Non, c'est moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, moi.
Très bien.
J'ai pas fini ma phrase.
Pour Fred.
Non, la première mesure dont le football a besoin, c'est un plafonnement des salaires. C'est tout. C'est déjà la première chose pour
des masses salariales, du recrutement, et c'est ce que va proposer le nouveau format.
Voilà. Que ce soit la Super League, soit pas. Moi, je suis plutôt favorable à la Super League parce que simplement, je connais très bien la personne qui est derrière, qui s'appelle Florentino Pérez. Et Florentino Pérez, il a sûrement beaucoup de défauts, mais c'est pas un imbécile. Et je vous assure qu'il croit vraiment en ce qu'il dit parce qu'il aime profondément le football.
Lionel,
juste un truc, Fred, ça dérange personne que Florentino Pérez, qui a totalement dérégulé le marché des transferts au début des années 2000, aujourd'hui se présente comme le grand prince.
Attends, il a
dérégulé les financiers de la masse salariale encadrée.
Alors, je vais te dire, il a dérégulé le marché, avec de l'argent qu'il a gagné, que le club a gagné même. C'est-à-dire que s'il y a bien un club qu'on peut pas accuser d'avoir pratiqué un dumping financier.
Non, mais je parle de vision.
Financier. Je termine. C'est le Real, puisque le Real, de par son statut associatif, ne pouvait dépenser que l'argent qu'il avait. Il n'y a pas d'actionnaire au Real.
Parce que Johan, il y a des clubs qui ont été vertueux en Italie sur ce plan-là.
Mais non, mais moi je suis d'accord avec ça en fait. Bah, donc, j'ai pas envie que Florentino Pérez, il vienne donner des leçons et nous parle de masse salariale encadrée quand lui, il a été l'un des grands artisans de la bulle financière du début des années 2000.
Ça va être compliqué dans le foot puisqu'il y a eu une escalade de trouver des gens qui vont pouvoir donner des leçons sur ce thème-là.
Surtout pas Agnelli, le Barça et compagnie, ça c'est clair.
Moi je vous entends parler de masse salariale, les copains. Mais quelle est votre parade par rapport au pays? C'est-à-dire la taxabilité qui est complètement différente par rapport
à... c'est le gros problème.
Comment encadrer une masse salariale avec un taux d'imposition qui est complètement différent?
Très intelligent ce que tu dis.
Et avec une taxabilité qui est complètement différente d'un pays à l'autre.
Il y a quoi? Pardon, j'ai pas entendu.
Où on paye moins d'impôts.
Qui paye moins d'impôts?
Les sociétés.
Qui?
Les clubs payent moins d'impôts que... Il y a moins d'impôts sur les sociétés en Angleterre qu'en Espagne et en France.
Je crois pas, non.
C'est combien le taux d'imposition?
50%.
Les gens paient 50%. Mais l'impôt sur les sociétés, je parle.
Mais je crois que c'est pareil, ça leur coûte le double au club. C'est normal.
Non, mais
Turquie, 13%.
Je te parle de l'impôt sur les sociétés.
Oui, c'est la même chose
sur les revenus des clubs.
C'est ça, c'est le double de ce que tu payes ton joueur. C'est les taxes,
Tu confonds. Tu confonds les
charges
sociales avec l'impôt sur les sociétés.
C'est la même chose.
On perd tout le monde là.
Et encore, toi, je crois que pour attirer, enfin, en Italie, pour attirer des étrangers, ils ont fait
quelques.
Merci. Et il me semble qu'en Espagne, ça avait été le cas un petit peu, non?
Ça avait été le cas partout.
D'accord, pas en Angleterre, jamais en Angleterre.
C'était pas sur le foot.
Jamais en Angleterre.
C'est ça, il n'y a pas d'uniformité. Et comment tu veux.
Lionel soulève un lièvre intéressant, effectivement.
Bien sûr.
Bon, dans un instant, on parle de vos matchs quand même, parce qu'enfin, il y a de la suite. On va essayer de lister quand même quels sont les gros favoris de la compète désormais avec vous. Messieurs, bougez pas, on revient tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h18, messieurs, dames, les drôles de l'âme sont là, tout comme Lionel Charbonnier et Daniel Riolo. Parlons un peu, après cette parenthèse compétition économique et économico-financière, parlons un peu sport, quand même, un peu foot, parce que on a donc ce plateau des quarts de finale. Que signifie cette domination italienne selon toi, Johan? Est-ce que il y a une part de circonstances du moment, les adversaires et tout, ou bien tu y vois comme une sorte de revival italien? Enfin, quelle est ton analyse?
Non, il y a évidemment une part de circonstance. Ça, ce serait difficile de le nier, évidemment, avec des tirages qui ont été, pour une fois, je le précise, assez favorables sur les huitièmes de finale, parce qu'ils n'ont pas rencontré, je sais pas, le Real, City, etc. Donc, quand vous prenez Porto, Tottenham et l'Eintracht, qui sont des bonnes équipes, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on n'est pas en train de parler de trois prétendants à la victoire finale en Ligue des Champions, clairement pas. Donc, il y a évidemment une part de défaite du moment. Après, moi, ce que je note quand même, c'est qu'il y a des clubs qui travaillent mieux. Pas tous, pas assez bien, sans doute. Mais il y a quand même, je le répète depuis des années maintenant, une part de vraie réflexion sur la stratégie sportive dans beaucoup de clubs. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas ne marchent pas, bizarrement. Je pense notamment à aussi ce que font le Milan, enfin ce qu'a fait le Milan et qui est toujours en cours d'ailleurs, et ce qu'a entamé le Napoli la saison dernière, c'est-à-dire accepter de faire deux pas en arrière pour en faire un en avant plus tard, c'est-à-dire accepter de totalement fondre sa masse salariale, accepter de se séparer de joueurs qui sont demandés à l'étranger, accepter de se séparer de joueurs qui ont des statuts et qui sont très chers au quotidien. Milan l'a fait, le Napoli l'a fait, et bizarrement
l'Inter ne le fait pas.
Non, l'Inter le fait pas.
Ils voudraient peut-être le faire, mais ils vont peut-être commencer.
Ils
pourraient
le faire mieux. On va dire que le processus est enclenché, mais il y a l'héritage de la période Conte qui est très lourd au niveau de la masse salariale, parce que quand Conte est arrivé, il a fait exploser la masse salariale puisqu'il a demandé plein de
joueurs. Trop de joueurs expérimentés,
des joueurs qui ont pas tous apporté grand chose finalement, même s'il a eu un titre, donc c'est difficile de nier aussi que les bienfaits de cette politique de recrutement là à l'instant T.
Mais c'est quand même bizarre, Johan, pourquoi quand Conte arrive et qui va à l'encontre de tous les autres clubs qui marchent bien, que ce soit le Milan AC, ça fait un petit moment déjà qu'ils ont dégraissé. Depuis le Milan Lab, ils ont dégraissé. Donc le Milan Lab, c'était en 2005. Ils avaient dégraissé, ils étaient à 42 joueurs, ils étaient passés à 24 joueurs sous l'ère Ancelotti. Ça allait de mieux en mieux. Ensuite, tu les as cités, tous ces clubs qui vont et qui réussissent bien, Napoli et l'Inter. Conte arrive et il décide de faire autrement, et on lui donne toutes les cartes en main. Mais et aujourd'hui, peut-être on lui coupe la tête en lui disant mais ce que t'as voulu, c'est de la merde. Comment t'expliques ça?
Alors, juste une chose sur le Milan, factuellement, c'est pas vraiment ça.
Le Milan AC, pardon.
Dans les années 2010, le Milan a beaucoup dépensé et donné des salaires très confortables pour des joueurs très moyens.
Le Milan AC, alors si tu veux, on en parle, c'est exactement ça. C'est ce que je viens de te décrire. Sous l'ère Ancelotti,
en fait,
c'est exactement ça.
Le dégraissage, il n'a pas commencé en 2005. Le dégraissage, il a commencé quand Elliott a repris les commandes en 2018.
Donc, c'est pas en 2005. Non. C'était avec Ancelotti, c'était en combien? À l'époque, Kaka, Seedorf, oui, et tout ça.
Fin des années 2000.
Je veux bien, mais factuellement, Lionel, je suis désolé, mais c'est pas du tout ça. Je peux dire que Yongongli a fait exploser la masse salariale à nouveau, que des Bilia, Bertolacci, Romagnoli, etc.
Tous les mecs sont arrivés après, c'était le bordel à ce moment-là, Milan, quand ils ont failli couler.
Je vais te faire lire tout mon rapport. J'ai fait 2 ans avec Ancelotti. Je vais vous faire lire mon rapport depuis le Milan Lab. Pourquoi le Milan Lab a été créé? Tout simplement parce que c'était Berlusconi. Je vais vous raconter toute l'histoire. C'était Berlusconi qui, à l'époque, était le président, qui a touché. Il y a eu des fonds européens qui ont été versés de part pour la recherche sur une recherche du médical, et notamment lui, il a détourné ces fonds-là, il les a mis dans le Milan Lab, il a ouvert le Milan Lab.
C'était le laboratoire qui s'intéressait à la santé des joueurs, à la performance
des joueurs. Et pourquoi il a mis ça? Parce qu'il y avait plus de 40 joueurs. Ancelotti, c'est ce qu'il m'a raconté pendant 2 ans, ou alors il m'a raconté de la merde, et Johan, faudra que
vous dites. Des bêtises plutôt?
Oui, des bêtises.
Ça, moi, qui contredit?
Bah là, parce que c'est là qu'il y a eu le dégraissage. Lionel.
C'est là qu'il y a eu le.
Ça. Moi, je te parle entre 2005. Tu sais ce qui s'est passé entre la fin d'Ancelotti et l'arrivée de Yang Gongli?
Ah non,
tu sais l'évolution de la masse salariale.
On ne parlait pas du même moment.
La masse salariale, la même année.
Moi, je te parle sous l'ère Ancelotti, ce qui s'est passé sous l'ère Ancelotti. Et on a vu que ça marchait très bien. Après, ils sont peut-être partis en live, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi, quand on voit qu'on réduit la masse salariale, qu'on a une politique technique, on met une politique technique, une politique médicale en place, ça marche avec le Milan AC. Ensuite, on voit que le Milan AC, je suis d'accord avec toi, part en live après la période Ancelotti, ça part en live complet. On voit que on augmente la masse salariale, ça ne marche pas. Le Napoli baisse la masse salariale, ça marche. Conte arrive à l'Inter, il dit on va augmenter la masse salariale et on voit que ça marche toujours pas. Et aujourd'hui on lui en veut. Pour moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on donne les coups des franches à Conte qui vient avec cette politique technique et on lui dit vas-y, fais tout ce que les autres ont fait et qui n'a pas marché. C'est ça, Johan, que je comprends pas.
Allez, mot de la fin, Johan, là-dessus.
Je comprends pas la question. Je suis désolé. En fait, Conte, ça a marché. Mais en fait, quand tu prends Conte et je
ça marche tellement qu'il y a combien il y a de milliards de déficit.
Non, mais ça a marché parce qu'il a eu le titre qu'il voulait. En fait, c'est ça que j'explique. Et Julien peut en parler à Tottenham et à Chelsea. Conte, quand il arrive, il dit moi, je viens, mais je veux ça, 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 ça. Et si tu lui donnes pas, tu sais ce qui se passe, Lionel? Bah, tous les week-ends, il va te, comment le dire poliment, il va critiquer fortement les dirigeants devant les médias en disant bah ouais, mais j'ai perdu ce match-là, mais parce que mes dirigeants, eux, ils m'ont pas donné tel joueur, ou parce que l'effectif, il est pas assez fort. Et puis moi, j'en ai marre de répondre aux médias, pourquoi les dirigeants viendraient pas le faire? Parce que vous me posez des questions sur la stratégie économique du club, mais c'est peut-être aux dirigeants de venir le faire. Donc il met la pression totale sur les dirigeants en permanence, et c'est pour ça que quand tu prends Conte, de toute façon, tu le sais, le club qui va prendre Conte devra débourser énormément d'argent. Point barre, sinon, Conte ne vient pas.
Mais donc il faut qu'on avance, s'il vous plaît. Je voulais à départ qu'on parle de la domination italienne, là, très bien.
Non, mais c'est pas une domination, c'est que cette année, il y a eu des bons tirages, et puis voilà.
Et après, il y a quand même des clubs qui travaillent bien, et
Julien,
ça c'est bien.
Toi, en Angleterre, comment t'expliques ce recul, on va dire, parce que d'habitude, les Anglais, à ce stade de la compétition, ils sont surreprésentés, là c'est moins le cas cette année.
Ouais, c'est vrai que, alors, surtout Tottenham qui est décevant finalement, parce que pour Liverpool, ça, on savait depuis le départ que ce serait quand même assez compliqué contre le Real, surtout avec le match retour en Espagne. Donc, cette élimination-là, même si le huitième de finale aller avait tellement bien commencé, celle-là, elle peut peut-être se comprendre dans une saison où c'est compliqué pour Liverpool. On l'a encore vu ce soir avec des cadres qui sont très loin de leur meilleur niveau. Virgil van Dijk ce soir, c'est pas possible, quoi. Fabinho non plus.
Il a vraiment coulé. C'est incroyable, ce joueur. Hein.
C'est incroyable, hein. Mais je sais pas. Mais après, on peut même revenir sur le cas Salah, même s'il y avait effectivement la très bonne après-midi contre Manchester United. Mais Salah est très loin.
Il nous perd de confiance.
Et puis je pense que voilà, au milieu de terrain, il y a un grand problème qu'on a expliqué toute la saison et qui a pas été rectifié, corrigé, ni l'été dernier, ni en janvier, ni le janvier d'avant, ni l'été d'avant. Voilà, ça fait 6 ans qu'ils ont pas recruté un milieu de terrain, donc à un moment ça commence à se voir. Donc c'est peut-être moins surprenant Liverpool contre le Real, Tottenham avec le match retour à domicile contre une équipe du Milan qui est une bonne équipe, on l'a dit, bien sûr, qui est championne en titre, mais qui était quand même prenable, je pense. Mais ça a été très décevant de la part de Tottenham. Après les deux autres, Chelsea, Manchester City, je pense que la locomotive c'est Manchester City, bien sûr. Chelsea dans une situation, dans une saison encore très compliquée pour eux aussi, c'est un mini miracle en soi qu'ils soient là. Ils ont profité aussi du fait que, selon moi, le Borussia Dortmund a un peu contre-performé au match retour et n'a pas non plus été par l'arbitrage dont on parlait tout à l'heure avec Polo dans l'avant-match. Donc voilà, mais ouais, c'est peut-être un petit peu décevant qu'il n'y ait que deux sur les 8 effectivement en quart de finale.
Polo, de ton côté, est-ce que le fait là qu'il n'y ait qu'un seul rescapé est décevant à l'échelle de l'Allemagne, ou tu dis que c'est assez logique?
Le tirage au sort, même si c'est une mauvaise excuse, est pas évident au départ. Tu prends Chelsea, tu prends City, et par exemple, moi je croyais beaucoup dans Leipzig dans ses huitièmes de finale, sauf qu'ils tapent City, quoi. Donc c'est compliqué. Ensuite, Naples est dans une forme extraordinaire. Ils ont dominé Francfort de la tête et des épaules sur les deux rencontres. Donc non, moi je préfère dire qu'il y avait quatre clubs en huitième et bon, le Bayern est en quart. Voilà, je suis un peu. Alors je suis même pas déçu par le Borussia Dortmund parce que en fait, depuis le début de saison, le Terzic est en train de tenter de retrouver une solidité défensive. Il est bon sur les contres et il n'arrive pas sur les attaques placées. Ben c'est pas passé face à Chelsea et puis Chelsea était supérieur. Donc non, ils sont à leur place. Il y aurait peut-être eu un tirage un peu plus facile. On aurait pu voir ce que ça aurait pu faire, mais c'était compliqué.
Et toi, Fred, ça confirme le recul des Espagnols ?
Oui, et moi je dis toujours que c'est surtout en Ligue Europa qu'on voit le niveau d'un championnat. Et demain, normalement, la Real Sociedad et le Betis vont passer à la trappe aussi. Donc non, enfin oui, c'est tout à fait logique. À partir du moment où vous avez un Atlético qui, dans un groupe très accessible, termine dernier, que vous avez le Barça qui c'est dans la deuxième année consécutive sort de troisième de sa poule Ligue des Champions et qui ensuite se fait éliminer rapidement en Ligue Europa. Oui, le championnat espagnol ne va pas bien. Donc tous les matchs du week-end permettent de comprendre la baisse d'une domination. Alors après, ce qu'il y a, c'est que pourquoi c'est choquant, c'est que cette domination a tellement été puissante et surtout tellement longue du foot espagnol que ça fait un gros vide en fait. C'est-à-dire que la descente, elle me paraît énorme. Et c'est encore une fois le Real qui l'an dernier contre toute attente gagne la Ligue des Champions, qui là une nouvelle fois sont très très bien placés parce qu'une fois que le Real est dans les huit derniers, bon ben on sait comment ça peut se passer. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt quoi. Donc non, le football espagnol ne va pas bien. En plus il y a toutes ces histoires d'argent et de corruption etc. Autour du Barça etc. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Javier Tebas qui a deux jours a déclaré qu'on était dans la pire période de l'histoire du foot espagnol. Donc,
et l'histoire du diffuseur, là, et des problèmes d'oseille, là, d'Azone, pareil, va pas bien du tout. Quelles conséquences ça peut avoir? Imagine CVC qu'on ait un truc à la Media Pro chez vous, là.
Oui, CVC, qui, je vous rappelle, est entré dans le capital de la Liga, hein, et que, à part trois clubs qui n'ont pas accepté de signer, le Real, le Barça, l'Athletic Club de Bilbao, commence à se poser des questions parce qu'il y avait des promesses de Tebas qui finalement n'ont pas été tenues. Non, la situation est très compliquée, quoi. Très, très compliquée.
Allez, petit tour de table, les gars, avant de vous laisser. Je vous laisse réfléchir. Je vous demande à chacun vos deux favoris pour la victoire finale, là, après les huitièmes de finale. Daniel, tu commences.
Les deux favoris pour la victoire finale. Écoute, je vais mettre le Real et le Bayern et avec l'outsider Naples.
Mais pas City.
Ah merde, City, j'ai oublié City.
Bon.
Alors, il faut en mettre que deux ?
Ouais.
Oh, ah, oui. Chiant,
c'est trop facile.
Bon, alors City et le Bayern et un outsider en Naples.
Bon, il y en a trois là. Lionel ?
Non, j'ai dit un outsider, c'est pas pareil.
City, Real, outsider Naples.
Ah ah, Polo ?
City, Chelsea, en gros outsider, et j'en ai que deux.
Et tu mets pas le Bayern donc, très bien. Julien ?
City, le Real comme Yo. City, le Real et Naples en outsider.
Johan ?
Real, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours l'histoire. City et en outsider, je vais forcément mettre le Bayern aussi pour des questions d'histoire et parce que je trouve qu'il y a quand même une force collective qui est assez forte.
Et Fred ?
Bah, bien sûr, comme Yo, hein, le Real, parce que dès qu'il n'y en a plus cuit, on est obligé de le mettre. Moi, je trouve que Naples, oui, j'ai envie de mettre Naples comme favori. Et puis, le Bayern en outsider, parce que le Bayern, je trouve qu'il y a. Il y a des clubs qui, quand arrivent les moments clés, sont là. Et j'ai plus confiance dans un Bayern que dans un City et surtout dans un Guardiola.
Donc personne n'a cité Milan, l'Inter et Benfica. Très bien, on le note. Merci les gars, bonne soirée à tous.
Salut, bonne soirée.
Dans un instant, on va partir en Suisse avec une histoire d'espionnage étonnante qui concerne le Qatar. Et puis le reste de l'actu du jour, bien sûr, d'ici minuit dans l'after. A tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h32, Daniel Riolo est là, Lionel Charbonnier est là. Et on va changer complètement de enfin, quoi que j'allais dire, on a parlé déjà tout à l'heure de la FIFA et de l'UEFA. On va rester pas très loin de toute cette zone parfois un peu glauque. Voilà. On va partir en Suisse, retrouver Stéphane Rian, qu'on a déjà eu plusieurs fois dans l'after. Stéphane est avocat. Il s'occupe notamment d'un site très bien informé sur les affaires du football qui s'appelle l'Index, L'1, le chiffre DEX. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir
Stéphane. Salut Stéphane.
Et merci d'être là parce que là on a appris en France, Stéphane, une affaire d'espionnage qui nous a scotché. Il faut nous raconter ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce fameux hôtel où le Qatar a espionné le procureur
en Suisse. Nous on croit que c'est très calme là, et c'est tranquille là, cette région là où tout va bien, où tout le monde vit bien et tout le monde est à l'aise. Mais il y a toujours des trucs bizarres, c'est les salons secrets.
Après votre appel, je me suis dit qu'est-ce que je vais leur dire, mais j'ai envie de vous dire c'est le retour des pieds-nickelés, quoi. Je trouve que c'est fantastique, c'est des scénarios pour relancer cette magnifique BD, parce que je sais pas, on est là dans la clownerie la plus profonde, hein, parce qu'on sait déjà que rien ne va se passer de toute façon sur le plan judiciaire procédural.
Ah bon? Oui, mais c'est ça que je comprends pas, c'est qu'il se passe.
Parlons des faits d'abord.
Ouais, voilà, les faits. Puis après il se passera rien, c'est drôle.
Les faits, donc, vous savez que qu'il y a eu des réunions secrètes qui ont eu lieu dans l'affaire Platini, FIFA, le Quatergate, au Schweizerhof à Berne, dans un hôtel qui a été acheté par les dirigeants qataris qui en ont fait leur ambassade. Hein. Et puis, la troisième rencontre secrète entre Gianni Infantino, Michael Lauber, qui était l'ancien procureur de la Confédération Suisse, a eu lieu donc dans cet hôtel-là. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend par la NZZ? Donc, la NZZ, c'est un peu le monde de la Suisse alémanique, hein, c'est pas un journal, c'est vraiment quelque chose de très sérieux, hein, qui nous dit qu'en fait la salle dans laquelle tous ces gens se sont épanchés, eh bien a été truffée de micros pour parce que les
c'était quoi
les
le
Qataris,
but
alors là je veux dire est-ce qu'on est dans les scénarios bien pas, hein. On est dans les scénarios, hein. Je pense si on posait la question peut-être à Michel Platini, il nous dirait que c'était pour être sûr de l'évincer définitivement, hein. On ne sait pas. On apprend également que c'était enregistré et que tout le monde a oublié ce qui s'est passé. Le procureur de la Confédération a même dit à un moment donné qu'il croyait que cette réunion n'avait pas eu lieu. Finalement, il s'est plus ou moins rappelé, mais en tous les cas pas le contenu.
Alors Stéphane, à ce stade, je vous arrête.
Je pourrais encore juste dire un truc qui me paraît très important. C'est quand même extraordinaire qu'on a un procureur de la Confédération, un ancien, puisqu'il a été, on va dire, évincé à la suite de ça, qui accepte, alors qu'il enquête sur les Qataris, une réunion dans l'hôtel le plus célèbre de Berne, qui a été acquis depuis 2009 par les Qataris. Moi, je trouve ça.
Et où se trouve l'ambassade à l'intérieur de l'hôtel?
Alors, je crois qu'elle a juste été équipée plus tard, hein. C'était juste plus tard. Elle n'était pas encore ambassade, je crois, au moment où. Où il y a eu la réunion.
Alors, je vais résumer, hein, pour ceux qui n'ont pas tout compris. Le procureur suisse se réunit secrètement, et il n'a pas le droit de le faire, avec Infantino, dans un hôtel qui appartient aux Qataris. Mmh. Ces mêmes Qataris, évidemment, ils sont chez eux, ont installé des micros, ils espionnent, ils écoutent. Mais Stéphane,
on apprend, attendez, il y a encore...
Attendez, moi j'ai une question quand même, là. Parce que, pourquoi, quand les Qataris, pourquoi espionner Infantino, alors qu'Infantino, il est à la botte des Qataris, il habitait même chez eux, il suffisait de lui demander, t'as pas besoin de mettre des micros.
Ah ouais.
Non.
Ben, je sais pas.
Pour être sûr, pour être sûr.
Le procureur de la Confédération.
Vraiment, il va être gentil.
Non, mais écoutez bien, le procureur de la Confédération, 6 ans auparavant, avait été ciblé par une entreprise américaine pour devenir en quelque sorte un espion suisse des Qataris. Il aurait refusé.
Lauber,
ben c'est.
Mais c'est quoi le but de tout ça, en fait? C'est de contrôler quoi? C'est.
Alors, paraît-il, le but expliqué par la NZZ, c'est de faire en sorte que les Qataris ne soient pas évincés de la Coupe du Monde du Qatar, parce qu'à l'époque, avec la problématique des droits de l'homme, des travailleurs un peu difficilement, disons, traités au Qatar. On se demandait s'il n'y aurait pas une possibilité de supprimer la Coupe
donc,
du Monde.
Tout ça, c'était pour verrouiller définitivement la Coupe du Monde. Maintenant que la Coupe du Monde allait passer, que ça s'est bien passé et tout, maintenant ils contrôlent quoi encore? Ils contrôlent encore des trucs ou c'est fini?
On parle du passé là, on est bien d'accord.
Oui, oui.
On parle du passé. Hein.
Mmh. On découvre aujourd'hui ça.
Ah oui, genre en gros maintenant, on dit bon bah alors l'Aubert a été contrôlé là, le fameux juge, mais en fait il va rien se passer, on va pas attaquer le Qatar. Bah,
exactement, vous voyez que le Qatar c'est quand même une place forte, très importante pour les États-Unis en face de l'Iran. Mmh. Et puis aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, les Européens et nous les Suisses les premiers. On reçoit le gaz du Qatar. Alors, qui croit vraiment que cette histoire va déboucher sur quelque chose?
Pourquoi ils perdent leur temps, les Suisses, à faire des procès qui servent à rien?
Il n'y a pas de procès, c'est juste des révélations du journal. Là, pour l'instant,
je croyais que ça allait donner lieu à une procédure.
Techniquement, l'espionnage, etc., ça devrait donner quelque chose de voilà, la souveraineté suisse, en tous les cas. On s'assied dessus assez. Mais vous, la France, la même chose, hein, lorsqu'il y a eu les espions, parce qu'ils ont espionné toute l'Europe. Hein. Et c'est les fonctionnaires de la FIFA, on a appris également que les Qataris, pendant toutes ces années de préparation de la Coupe du Monde, avaient mandaté une société pour espionner surtout les fonctionnaires qui travaillaient à Zurich.
Ah mais c'est un truc de fou quand même.
Je crois que c'est une histoire. Je pense qu'on pourrait en faire un scénario de péniclé.
Je me demande si je faudrait pas que j'espionne deux trois personnes. C'est bien d'espionner.
C'est ni d'espion.
Moi aussi j'ai envie de placer des micros.
Ouais mais je
pour
crois
connaître
que
l'intégrité, si, la vérité.
J'écoute de temps en temps RMC Sport. Vous espionnez les Qataris à Paris assez facilement, non?
Ah, écoute, ils l'ont été eux-mêmes. Hein. Il y a des affaires qui sont en cours.
Déjà, ils s'espionnent entre eux déjà.
Il y a des éléments cocasses qui terminent sur des clés USB. Et eux aussi ont été sujets à ça.
Non, c'est vraiment un scénario de pied-niquelé avec des filous, des croquignoles, etc.
Bon, maintenant, il n'y a plus besoin, ils contrôlent tout, ils ont ces Ferrine dans la main, Infantino, ça va, mais il n'y a plus besoin d'espionner là maintenant.
Stéphane.
La Coupe du Monde au Qatar a été une grande réussite, paraît-il. Donc,
on a parlé d'Infantino hier. Il va être réélu. Là, actuellement, c'est au Rwanda. Il est le seul candidat. Alors, il prépare déjà jusqu'à 2031 et tout.
Je veux savoir si les gens font la fête en Suisse quand Infantino est élu.
Non, mais je veux dire, voilà, les Suisses sont loin d'être bêtes. Quelle image a-t-il aujourd'hui chez lui? Je veux dire, est-ce qu'on se dit, ce type-là, on n'en peut plus, il donne une image de loup cataclysmique? Est-ce qu'il est vu quand même comme un grand dirigeant? Enfin, Stéphane, qu'en est-il?
Écoutez, je suis peut-être pas la personne à qui il faut poser cette question-là. J'ai pas un regard, disons, très
bienveillant,
optimiste sur l'éthique de la FIFA. Je veux dire, quand même, les Américains, ils ont débarqué à Zurich pour lancer une grande enquête. Et qu'est-ce qu'il en est résulté? C'est une débâcle de la justice suisse, française, etc. Je crois que c'est un désastre, disons, pour ceux qui pensent que l'état de droit devrait plus ou moins nous guider. Donc je crois qu'on est ailleurs, on est dans le monde de la force, de la puissance, de l'argent, etc. C'est le constat qu'on doit tirer, disons, vu de l'extérieur, puis même de l'intérieur, je pense.
Voilà, on me dit sur Direct Studio, pour une fois, les Suisses ne sont pas à l'heure dans cette affaire. Blague française. Blague française, Stéphane.
Non, mais Infantino, c'est une sorte de chef suprême maintenant.
Non, Infantino, il était à l'heure. Hein. Il a senti venir les choses. Il a peut-être organisé sa succession en écartant un Français. Je crois qu'il a su jouer la montre peut-être mieux que Michel Platini au moment fatidique, avec des armes qui étaient toutes, peut-être sauf éthique, hein.
Mm-hmm. Oui, non, on peut enlever le peut-être de la phrase. Alors maintenant, faut voir si un jour il y a quelqu'un qui se met devant lui pour lui prendre sa place.
Non, mais procéduralement, il a été acquitté de toutes les enquêtes, etc. Et à vues humaines, on pense pas que les enquêtes qui ont été diligentées à Berne ou à Paris contre lui puissent aboutir.
Non, il y a rien qui aboutit.
Il est présumé innocent, il est tranquille. Il le restera innocent jusqu'à la fin.
On continue à assister au spectacle d'Infantino aux mains et avec ses idées farfelues sur le football, aux mains des Qataris qui décident pour lui comment organiser les compètes, ou les
mais
organiser.
Le monde du football, le monde du football, et c'est quand même moi qui suis un grand supporter de Barcelone, eh bien je dois dire que quand on voit ce qui se passe au Camp Nou, direction, eh bien on se pose des d'étonnantes questions. Hein, et on se demande si c'est pas ce monde du foot que j'adore qui
fait perdre la tête aux gens, oui c'est possible.
Bah oui, vous voyez ce qui se passe à Paris, hein. La plus belle ville du monde, lorsqu'elle reçoit les meilleurs joueurs, ceci.
En ce moment, depuis quelques jours, la plus belle ville du monde.
Bah vous voyez Neymar il part de Barcelone. Daniel Riolo qui adore le foot, vous adorez le foot, vous voyez la carrière d'un gars comme Neymar. On est en train de se dire est-ce qu'il a complètement échoué à cause de l'argent, parce que c'est pas un autre critère qui l'a fait se diriger vers Paris à ce moment-là.
Oui, c'est vrai.
Stéphane Rian, merci pour ce nouvel épisode de la saga FIFA UEFA qu'on retrouve sur l'index. Et on se rappelle, hein, parce que on se rappelle au prochain épisode.
À une prochaine.
Il se passe toujours des choses en Suisse, là.
Bonne soirée. Stéphane Rian, qui est avocat, hein, mais qui donc enquête également sur toutes ces affaires. Dans un instant, le reste de l'actu du jour, Jonathan, on va parler de Balerdi. On a sa suspension et
deux matchs, hein.
Oui, deux matchs. Et surtout, comment dirais-je? Les supporters qui se mobilisent, merci Lionel. La mobilisation des supporters ne faiblit pas pour se débarrasser de Balerdi. Je vous raconte tout dans quelques instants.
Il y a encore des grèves de la faim.
Et puis il y a une pétition maintenant. Et puis les infos. Oh,
franchement, c'est incroyable. Ça.
À la veille du match Nice-Sheriff Tiraspol, plus le reste de l'actu du jour. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilles Darbribois.
On est là jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Lionel Charbonnier. Alors, je vais vous raconter une autre histoire assez drôle. Vous savez que Balerdi est très très mal vu désormais par les supporters de l'OM. Alors la dernière boulette, c'est le carton rouge contre Strasbourg. Donc on a appris aujourd'hui qu'il prenait deux matchs de suspension ferme. En l'occurrence, ça va peut-être lui permettre de retrouver un peu le calme, le pauvre Balerdi qui en prend quand même plein la tronche. Alors que franchement, dans l'after, on l'a dit à plusieurs reprises, il a quand même fait quelques bons matchs. Faut pas le jeter comme ça, là, comme si c'était le dernier des mauvais qu'on ait vu dans l'histoire de l'OM. À tel point, Guendouzi est venu le défendre face à des supporters à la sortie de l'entraînement aujourd'hui. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Guendouzi qui dit, il faut respecter les gens. Balerdi, c'est un bon joueur. Tout le monde fait des erreurs. Il faut le respecter. Voilà ce qu'a dit Guendouzi.
Bonne attitude.
Hier, on a expliqué qu'un homme avait dit avoir entamé une grève de la faim. Bon, a priori, plus une mode blague qu'autre chose. Aujourd'hui, il y a une pétition qui a circulé parmi les supporters à l'entrée de la commanderie. Et alors, le truc assez marrant, c'est que Nuno Tavares, il est sorti avec sa bagnole. Puis, tu sais, les joueurs, ils viennent et puis on leur entend des papiers pour signer. Et là, il y a un mec qui a dit, vas-y, signe. Et là, tu l'as fait, ouais, ok. Ouais, il a signé là. Nuno Tavares, il a signé la pétition pour que Balerdi se casse. Non, mais...
Ouais, ce côté tête de Turc, alors oui, ça existe, ça a toujours existé dans les clubs.
T'en as eu, toi. Hein,
et l'OM aime bien ça, les joueurs. C'est vrai qu'à l'OM, il y a ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est excessivement sévère à son encontre. L'entraîneur le fait jouer. Je trouve qu'il a fait autant de bons matchs que de mauvais matchs depuis le début. Alors, c'est vrai que quand il fait mauvais, on a le sentiment qu'il est le seul fautif. Bon, je trouve que c'est un peu dur d'en arriver à ça, quoi.
Ouais, l'attitude de Guendouzi, c'est très bien.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Oui, Guendouzi qui en plus pourrait un peu se planquer ces temps-ci, il est plus titulaire, il est un peu dans le dur.
Ouais,
voilà, très bien. En fait, Nuno Tavares, évidemment, il savait pas ce qu'il signait, lui, il a pris le papier et poum, il aurait signé un autographe, quoi. Ouais, c'est quand même drôle. Bref, voilà pour la petite histoire marseillaise du jour. Les infos niçoises avant le match de demain face au Sheriff Tiraspol. Bon, on n'envisage pas autre chose qu'une qualif, là, hein, victoire à l'aller 1-0 en Moldavie. Nicolas Pépé est de retour. Il est disponible demain pour le match, donc face au Sheriff Tiraspol.
Tu sais qu'il a débuté à Poitiers dans mon club, lui.
Oh,
ouais.
Ah tiens, je savais pas.
Ouais, voilà.
C'est tout.
C'est vrai.
Très bien.
Non.
Alors, tu sais que c'est à Poitiers qu'est imprimée la superbe revue de l'After.
Ah ouais.
Oui, je salue notre imprimeur.
Putain, ils m'ont même pas envoyé des trucs en loose day.
Bah non.
Je vais mettre des micros là-bas, des caméras et tout pour le lire en.
revue de l'After, toujours disponible sur afterfoot.media, bien sûr. Voilà, alors, tiens, j'ai une autre info concernant Jean-Michel Aulas, qui a donné une interview à Libé. Et là, il a eu une déclaration étonnante. Alors, vous allez peut-être me dire, mais il a raison, on va voir ce que vous dites. Il a dit, écoutez, je vais vous avouer un truc, la descente m'a hanté. C'est la pire des choses qui puisse arriver dans le foot, c'est de descendre en deuxième division. Alors pas sur le plan de l'image, mais sur le plan économique.
Tu parles de cette année ou...
C'est une véritable catastrophe. Oui, oui. Il a dit au début de la saison, quand il y avait la fameuse série de défaites de l'OL, qui était, c'était quand même tendu. Eh ben, il s'est dit, mais c'est pas possible, on va descendre. Donc il a commencé à voilà, il dit ça, il a flippé. Alors, il dit, je l'ai dit aux joueurs. Et là, tout le monde a répondu, mais il est pas bien le président. Je dis, mais oui, c'est ça l'aléa du foot que tout le monde veut éviter, c'est la descente. Et j'ai eu peur. Vous répondez quoi? Grand chef d'entreprise parce qu'anticipation
Non, parce que.
Ou alors, là, tout de même, il s'est fait son flip tout seul.
Non, il s'est pas fait un flip tout seul. On lui a aidé à faire le flip parce qu'ils étaient vraiment en mauvaise posture. Ils faisaient n'importe quoi. Et comme quoi, tu peux tout anticiper et puis tu crois tout maîtriser. Et heureusement que le sport, il est comme ça. Après, il a pas tout anticipé, je pense, dans son club. Il y a des choses qu'il n'a pas maîtrisées, notamment les dernières personnes avec lesquelles il s'est entouré. Pour moi, il a fait beaucoup d'erreurs. Je pense. Il avait des très bons et puis après pour les remplacer, alors personne n'est irremplaçable, mais ces personnes-là n'étaient pas à la hauteur. Il leur devait beaucoup. On a dit Jean-Michel Aulas, mais il y avait des gens qui étaient autour de lui qui n'y sont plus, qui étaient très influents. Mais maintenant qu'ils ne sont plus là, on s'en rend compte. Remettre des bonnes personnes aux bons endroits, c'est très important. Après, qu'ils flippent, moi, franchement, c'est tout à fait normal. Mais t'imagines la catastrophe pour Lyon?
Bon, moi, je pense, franchement...
T'as vraiment envisagé ça?
Moi, je pense pas.
Tu sais quand ça va me regarder...
Tu me comprends avec Bordeaux l'année dernière?
Ouais.
Bah, c'était pas le même effectif, quand même. Enfin, moi, je peux pas comparer les deux situations.
Ils maîtrisaient rien, cet effectif-là. Ils étaient pas mal, Bordeaux. Hein. En effectif, ils étaient pas si mal que ça. L'année dernière, c'était pas si mal que ça. Hein.
Ouais, enfin, ça n'a rien à voir.
Peut-être qu'ils voulaient se faire à Lyon-Saint-Etienne en Ligue 2.
Peut-être qu'ils voulaient un derby en Ligue 2, je sais pas.
C'est pas la même chose. Je veux dire, il a jamais été question ou envisageable que Lyon flippe pour quoi que ce soit.
Quand t'es chef d'entreprise, tu commences à regarder derrière, que tu l'as jamais fait de ta vie.
Excuse-moi, mais ça veut dire que t'analyses très mal les situations. Ça veut dire que t'as perdu l'œil.
Ah, bah oui.
T'es un chef d'entreprise et qu'au moment où ça va pas, tu envisages le pire.
C'est peut-être aussi pour ça qu'il a flippé, il s'en est rendu compte.
Moi, je trouve que ça fait partie du bagage d'un bon président de savoir jusqu'où ne peut pas aller la catastrophe et d'être assez lucide pour te dire ne pas se laisser aller à une panique inutile parce que tu vas prendre des mauvaises décisions.
Ouais, il a peut-être pas paniqué jusque là, mais se poser les questions et flipper et y penser pour la première fois depuis qu'il est à la présidence. Ah ouais, je le crois à 200%.
Bon, voilà. Il le dit aujourd'hui. Je pense que là, maintenant, il est tranquille, hein, évidemment.
Oui, bien sûr.
Mais je voulais vous relayer ça. Et puis, dans l'actu du jour, il y a le décès de Claude Simonnet, ancien président de la Fédération française de foot, qui a eu des fonctions à Nantes, bien sûr. Deschamps lui a rendu hommage parce qu'il a été un de ses dirigeants au club et à la Fédé.
Et puis, c'était le président de France 98.
Ça a été le président de France 92 ans. Tu as eu des contacts avec lui?
Proche. Bon contact. Il est arrivé après la débâcle de la Bulgarie, quand Fournet Fayard part.
Ouais.
Mais tu vois, c'est marrant parce que, au-delà du fait, paix à son âme, Claude Simonnet est mort aujourd'hui, donc on lui rend ce petit hommage. Mais tu vois, quand j'ai appris la nouvelle, bon, alors malheureusement, c'est vrai qu'il est resté. Il est resté dans les mémoires pour l'épisode du Romané Conti dont on a parlé. Mais j'ai presque envie de te dire que si on a plus parlé de ça, qui a représenté en gros une énorme boulette, c'est-à-dire qu'avec l'oseille de la note de frais, il se soit fait une bouteille à 4008.
C'était en Corée au moment de la débâcle, voilà, des Bleus.
Au moment de la débâcle,
donc,
il a été pris dans la débâcle. Mais si on a parlé beaucoup de ça, je me suis dit, mais finalement... On a encore beaucoup parlé des présidents de la Fédé dernièrement, là, puisque Noël Le Graët est parti également. Mais c'est quand même très difficile de trouver un président de la 3F qui, au fond, sert vraiment à quelque chose. Parce que sur France 98, en gros, c'est...
Quand tu gagnes la Coupe du Monde, quand même,
c'est
Daniel.
Un monsieur qui vient avec sa bonhomie, mais en gros, il y est pour rien. Il y est pour rien du tout, en fait. C'est les joueurs, Aimé Jacquet, machin. Lui, en fait, il accompagne. C'est un gentil monsieur qui accompagne. Tant qu'il ne fait pas de boulettes.
Est-ce que t'as pas besoin d'un dirigeant comme ça, justement?
En fait, je pose un peu la question. Soit t'as des présidents qui étaient des visionnaires comme Fernand Sastre, qui ont, au moment où tu construis un football, et là, tu restes parce que tu construis. Mais un président de Fédé, moi, tous autant qu'ils sont, Mais déjà, depuis... quand tu détruis pas, c'est déjà beaucoup. Tous autant qu'ils sont depuis Fernand Sastre. Au final, pour moi, c'était des accompagnateurs qui n'ont pas servi à grand chose et qui n'ont été mis en lumière que quand ils ont fait des conneries, des boulettes, parce que, bah, ils ont abusé de leur pouvoir. Et le maître absolu en la matière a été Noël Le Graët. Mais un président de Fédé, ça doit pas juste être, laisse-moi venir, juste être un accompagnateur. C'est aussi le gars qui doit décider de la vision qu'il a pour le football. Par exemple, le poste de DTN. Le président de Fédé, on a l'impression qu'il s'en fout de savoir qui est le DTN. Depuis des années, on a enquillé des postes.
Sous Simonet, c'était Houllier.
Oui, mais on a
puis ensuite Jacquet d'ailleurs.
Oui, mais en fait, est-ce que c'est lui qui décidait ou est-ce qu'on décidait pour lui? Est-ce qu'il y avait une vision derrière le fait de nommer un DTN et en gros là,
c'est pas le président qui décide, hein.
Oui, mais le président, il devrait avoir son nez et dire, moi, j'ai envie que le football dans mon pays ce soit, que le foot amateur soit organisé comme ça.
Le problème, Daniel,
je fais attention à comment ça se passe.
Les présidents sont des gestionnaires, c'est pas des gens du terrain en vérité.
Mais là, c'est un problème. Finalement, c'est un problème. Et finalement, après, tu les retiens.
Dans le football,
tu les retiens que Simonet, Laurent Manet-Conti, le pauvre Escalette. Ah,
Simonet, on peut quand même lui dire que c'est le mec qui a mis la France championne du monde.
Mais non, il a rien mis du tout. Mais en quoi il est responsable?
Il était là.
Mais être là, ça suffit
mais
pas.
Non,
être là.
Mais non,
justement, est-ce qu'il a pas
là,
mis les bonnes personnes dans bons endroits,
quand
Daniel?
Quand t'es à la tête, non, t'es quand même là
arrêtez.
Pour.
Le système, si, tu sais comment il est fait. Il arrive par hasard après Fournet Fayard. C'est un hasard qu'il soit là. Il prend aucune décision. Il ne prend aucune décision. Dans la foulée de Simonet, qui est arrivé?
Escalette.
Le Kidam Escalette. Mais tu vois, c'était le gentil monsieur, il servait à rien. Ils sont là, ils
font. Ah, lui, il s'est pris Naïsna.
Et il a pris Naïsna. Naïsna, il n'a pas été capable de gérer. Bon, voilà.
Mais Simonet, il ne l'a pas pris.
Et en sous-main, il était en plus piloté par Le Graët. Donc, il s'en va sur une boulette. Dans la foulée, le pauvre Duchossois, qui était un gentil monsieur, pareil, inutile. Et il part dans la vague parce que lui aussi, il prend la peau de banane de Le Graët sur cette fameuse histoire des quotas. Il y est pour rien, Duchossois. Il y est pour rien. Il se fait bananer la gueule dans cette histoire.
Bananer tout court, ça suffit.
Par des intérêts de gens qui veulent la place. Au final, le président de la 3F, moi, j'ai pas envie que ce soit juste un monsieur qui est là par hasard quand ça va bien ou qui est là pour être au milieu de boulettes, d'excès de pouvoir, un mec qui a abusé sur une note de frais ou un mec qui, comme Le Graët, pendant 10 ans, a transformé la Fédé en petit potentat.
Voilà. Il a fait du
Moi, j'aimerais qu'il y ait un mec avec une vision. Le foot amateur, c'est la merde à tous les étages aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un va mettre le nez dedans et va s'en occuper vraiment?
Ça, c'est pas le président.
L'année dernière, Mbappé jette un pavé dans la mare avec cette histoire de droit. Ça n'est toujours pas résolu. Il n'y a rien. Personne ne se penche sur ce problème-là.
Allez,
quoi ils servent, les présidents de Fédé? À quoi ils servent? Des mecs qui sont là par hasard? Moi, j'ai l'impression que ce ne sont que des mecs là par hasard. Et là, maintenant, ça va être les Game of Thrones pour savoir qui va aller s'asseoir dans le fauteuil pour croquer. Voilà.
Les gars, il nous reste 2 minutes. J'ai pas le temps, malheureusement, d'accueillir Hicham qui est abonné à Marseille, qui voulait nous dire attention, il y a pas de vraie mobilisation contre Balerdi et tout ça, et le fait d'individus isolés. J'ai d'autres messages d'Adrien qui nous dit pas de généralité. Beaucoup de supporters comme moi envoient ces pétitions et ces histoires de grève de la faim d'un mauvais œil. On soutient le joueur, dit-il. Donc voilà, c'est important de le préciser. Il n'y a pas d'unanimité contre Balerdi. Dylan qui nous dit bien. Je comprends pas l'acharnement sur Balerdi. Et en revanche, l'indifférence sur Nuno Tavares. Bon, lui, il veut reporter le truc.
Non, mais je suis assez d'accord.
Voilà, et j'ai même Flo qui nous dit il y a un paquet de débiles dans nos rangs. Bravo à Guendouzi d'être venu le soutenir. Voilà ce qu'on nous dit là à suivre.
Très bien.
Et puis, j'ai quand même des anti-Balerdi. Hein. Là, j'ai Copa qui nous dit les pro-Balerdi, qu'est-ce qu'ils veulent? Ce type est nul, pas de jeu de tête,
place pour éclater, en fait. Etc. Il n'y a pas de pro-Balerdi.
Oui, non, mais il y a plein de gens qui disent voilà, faut arrêter le bashing Balerdi en permanence. Et puis Hüseyin, notre ami qui suit le football turc de très près, nous dit Daniel serait-il prêt à faire une grève de la faim pour le départ de Neymar et de Verratti?
Non, ça ne me regarde pas.
Très bien. Pas de grève de la faim. Voilà. Les gars, c'est fini pour ce soir.
Tiramisu.
Demain, after, juste après le match de Nice. Donc, aux alentours de 23h, on sera là pour analyser le match de Nice, Sheriff Tiraspol, demain soir dans l'after. Et puis, si vous voulez encore plus d'after.
Bon match de Nice, hein, parce que je pars quelques jours en Terre Sainte. En Terre Sainte, quelques jours.
Bon, ah, Aris Orangis, il va passer le week-end à Aris Orangis. Ah. Et puis, allez sur afterfoot.media pour la revue de l'after, elle est toujours disponible.
Ciao.
Merci,
ciao.
Bonne nuit à tous.
RMC, l'afterfoot.